Voilà, mais écoutez, ce matin, c'est officiellement sur mon calendrier la rentrée. Donc, avant de revenir à l'évangile de Marc, j'avais ça sur le cœur, et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles à Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Un message que j'ai intitulé Motivé par la grâce. Je voulais donc profiter de cette date pour nous aider à mieux préparer la rentrée et surtout en ce qui concerne notre implication individuelle dans l'Église. Car comme vous le savez, avec la rentrée, eh bien les activités personnelles recommencent, mais aussi les activités de l'Église. Chacun, certainement dans les jours, semaines à venir, va devoir évaluer les activités dans lesquelles il ou elle aimerait s'impliquer. Ça va être noté dans le bulletin, on va faire des annonces et vous allez devoir faire ses choix, vouloir faire ses choix. Alors ce que j'aimerais dire avant que nous nous engagions à quoi que ce soit, c'est de nous avertir d'un réel danger à ces activités. Car il y a des personnes qui pourraient penser que leur vie spirituelle sera évaluée par leur activisme. Ils voudront peut-être évaluer la maturité de leur vie spirituelle par rapport aux activités qu'ils font dans l'Église. Peut-être une personne très impliquée pourrait penser qu'elle est une chrétienne engagée et peut-être même au-dessus du lot s'il y a beaucoup d'activités. Une personne engagée dans peu d'activités pourrait conclure l'opposé, ou peut-être être jugée par d'autres, comme quoi elle est peu engagée dans l'Église. Alors certes, il y a peut-être un peu de vrai dans cela. Un chrétien qui aime Christ va aussi aimer l'Église que Christ a bâtie, et il va vouloir utiliser ses dons spirituels qui lui ont été donnés par Christ pour servir le corps de Christ. Mais on pourrait également être tenté de mesurer notre maturité spirituelle par notre activisme. Et ça, c'est pas biblique. Donc ce que j'aimerais faire ce matin, en lançant cette nouvelle année, c'est de revenir à la base des bases et vraiment comprendre quelle doit être notre motivation. C'est ça, c'est le cœur. Notre motivation pour notre engagement et pour notre service, d'où le titre de mon message, Motivé par la grâce. Car notre engagement et notre service dans l'église locale doivent, et là je vous donne déjà la réponse du message, donc vous pouvez écouter cette phrase et partir si vous voulez, d'accord? Mais notre engagement et notre service dans l'église locale doit être le résultat ou la conséquence ou le fruit de notre vie en Christ. Tout commence avec notre cœur régénéré par Christ qui bouillonne d'amour pour le Seigneur et qui bouillonne de zèle pour le servir. Nous allons voir que notre motivation pour servir Christ avec zèle est le résultat de la grâce de Dieu qui, elle, nous motive dans notre service. On va lire ces quelques versets, Tite 2, à partir du verset 11. Regardez. Paul écrit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Un condensé absolument fabuleux de la grâce de Dieu et de son implication dans nos vies. Juste quelques mots d'arrière-plan. Nous sommes environ dans l'année 62 ou 64 après Jésus-Christ. Paul écrit cette lettre de Corinthe et entre son premier et deuxième emprisonnement à Rome, Tite, le destinataire, est un jeune disciple que Paul avait laissé à Crète, donc une île grecque, lors d'un précédent voyage, afin, selon le chapitre 1, verset 5, qu'il mette l'ordre dans l'église, donc c'était une église en désordre, et il devait en plus établir des anciens. Et dans le chapitre 2, Paul donne des instructions concernant la conduite des membres dans l'église. Et regardez le verset 1 du chapitre 2. « Pour toi, Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Donc, il donne des instructions concernant la conduite des membres de l'Église et explique que ce qu'il va dire va motiver ou devrait motiver ces gens. Et là, il donne les catégories de personnes. Au verset 2, dit que les vieillards doivent faire ceci. Verset 3, dit que les femmes âgées doivent faire ceci. Verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à faire leurs choses. Verset 6, exhorte de même aux jeunes gens, aux jeunes hommes de faire ce qu'ils doivent faire. Verset 9, exhorte les serviteurs à faire leurs choses. Donc, l'implication, c'est que la saine doctrine poussé par la grâce, va nous aider à appliquer ce que nous devons individuellement appliquer vis-à-vis du Seigneur. Alors c'est simple, dans ce court passage, nous apprenons 10 réalités fabuleuses par rapport à la grâce de Dieu. Regardez, c'est vraiment super beau. Regardez numéro 1, la définition de la grâce de Dieu. Regardez le verset 11. Car la grâce de Dieu, on s'arrête là, la grâce de Dieu, il faut définir les termes. C'est quoi la grâce de Dieu? Qu'est-ce que la grâce? Voici une bonne définition, je pense. La grâce de Dieu, c'est la faveur active et imméritée de Dieu qui confère sa plus grande bénédiction à ceux qui méritent sa plus grande condamnation. Pour faire court, la grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu dans nos vies. Et c'est quoi cette faveur imméritée de Dieu dans nos vies? C'est simple, Éphésiens 2, 8 nous le dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » La grâce imméritée de Dieu dans ma vie, c'est que Dieu m'accorde gratuitement le salut par son Fils Jésus-Christ. Verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu, une grâce imméritée, un cadeau que Dieu nous offre. Deux, le besoin de la grâce de Dieu. S'il dit au verset 11 de Tite 2, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, cela implique que nous en avons besoin. Ça implique aussi que si on reçoit la grâce de Dieu et le salut, ben qu'avant on ne l'avait pas, ni la grâce de Dieu qui nous a été, enfin qui était adaptée à moi ou qui a été prise par moi, je n'avais ni reçu la grâce et ni bien sûr le salut que nous donne la grâce de Dieu. Alors la grâce est toujours disponible, mais elle n'était pas personnelle, reçue par moi. Je vous donne un exemple. J'espère que ça vous allez comprendre. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au British Museum à Londres. Dans une salle, la salle des émaux, il y a là une pièce extrêmement rare. Il s'agit d'un vase en émaux d'une valeur exceptionnelle. Et un jour, un fou, profitant d'un moment d'inattention du gardien, a poussé le vase. Le vase est tombé et il s'est brisé en 1000 morceaux. Alors bien sûr, la plupart des gens auraient dit, mais ce vase est perdu. Il n'y a plus que jeter tous ces morceaux, c'est terminé, on n'en parle plus. Mais la direction du musée, connaissant trop bien la valeur de ce vase, se refusait de considérer ce vase perdu. Elle a fait appel à un spécialiste qui, patiemment et de manière méticuleuse, a rassemblé tous les morceaux et a reconstituer ce vase qu'on peut voir aujourd'hui et admirer dans le musée. Alors, qui ne connaît pas son histoire est absolument incapable de s'imaginer qu'un jour ce vase si magnifique n'avait été qu'un tas de débris. Les raccords ont été faits avec une telle habileté qu'ils sont pratiquement invisibles. Le directeur du musée a pris soin de mettre à côté du vase une étiquette relatant son histoire, et il arrive qu'on entend des gens qui regardent et qui lisent l'étiquette, mais c'est impossible. Pourtant, c'est la stricte réalité. Peut-être que cette image simple nous illustre la grâce de Dieu. Parce que ce vase a connu trois étapes. La beauté originelle, ça c'était l'homme avant la chute. La destruction en mille morceaux, ça c'était la chute de l'homme et son péché. Et ensuite sa prodigieuse restauration. Ça c'est l'histoire de l'homme qui rencontre Jésus-Christ. Ça, mes amis, c'est la grâce de Dieu. Vous vous rappelez qu'au début, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est intéressant que dans Genèse 1,31, il dit que ce qu'il a créé, l'homme à son image, était une bonne chose. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse avoir une communion ouverte avec lui. Intime et parfaite. Mais l'homme, à un moment donné, Genèse chapitre 3, n'en voulait plus. Il s'est rebellé contre lui. Il voulait vivre sa propre voie, sans Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle péché. C'est lorsque l'homme dit, je ne veux plus Dieu, je veux vivre ma vie comme je veux la vivre. Il a péché. Et c'est très intéressant, dans Genèse 3, verset 22, vous savez que l'homme et la femme, Adam et Ève, étaient dans le jardin d'Éden, il est dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger, de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qu'il agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Dieu chasse l'homme du jardin et à partir de ce jour-là, il est coupé de Dieu. Et depuis, l'homme s'est posé la question, mais comment puis-je retourner dans ce jardin? Comment puis-je retourner avoir une relation limpide avec Dieu sans péché? La réponse est dans ce texte. Dieu a dû pourvoir une solution pour ce péché. Et vous connaissez cette solution, c'est le sang de son propre fils, Jésus-Christ. Mais là, on va trop vite. Trois. On a vu la définition de la grâce de Dieu, le besoin pour la grâce de Dieu. Trois, l'apparition de la grâce de Dieu. Regardez encore, maintenant on est dans Tite 2, verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Ah, c'est génial. À un moment donné, la grâce de Dieu, pouf, est apparue. Bien sûr, cela fut initié par Dieu, puisque c'est la grâce de Dieu. Alors, dans l'original, le mot « manifester » est en fait au début de la phrase. Littéralement, on lit comme ceci, « manifester, virgule, la grâce de Dieu est salut pour tous les hommes. » Et le mot pour manifester, vous le connaissez, c'est le mot « épiphanie », qui veut dire « apparition ». La grâce de Dieu, un jour, est apparue. Un jour, elle a été révélée en pénétrant notre monde moralement et spirituellement ténébreux. Alors j'aimerais vous montrer cela pour que vous ne l'oubliez jamais. Regardez. Alors, j'ai besoin de votre aide. D'accord ? C'est un tour de magie que je vais faire là, d'accord ? Non, vraiment. Je veux que vous compreniez l'idée d'apparition. Alors, Vous savez pas ce qu'il y a là-dessous, mais moi je sais. Alors maintenant je vais tirer le foulard d'un coup, comme les magiciens à la télé, d'accord? Et quand vous voyez ce que vous voyez, j'aimerais que vous exprimiez « Waouh, incroyable, extraordinaire !» J'aimerais que tout le monde crie, dise ce qu'il a à cœur quand il voit ce truc, mais je veux un truc vraiment positif, l'élément de surprise, le « Waouh !» Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on joue le jeu? Est-ce que tout le monde va faire ça? Est-ce que vous êtes prêts? À trois, je retire le foulard, j'aimerais vous entendre, vraiment à fond. Un, deux, trois. Mes amis, vous venez de comprendre le mot épiphanie, la révélation de Dieu. Bon, c'est tout bête comme illustration, on est d'accord. Mais voyez, c'est ce que Dieu a fait avec la grâce de Dieu. L'homme était embourbé dans son péché, il ne pouvait rien faire pour s'en sortir. Et soudainement, c'est comme si Dieu a enlevé le voile, fou, et la grâce de Dieu est apparue. Et l'homme, soudainement, d'une manière totalement inattendue, la grâce de Dieu a été révélée. C'est ce qu'il dit au verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Quatre. L'heure de la grâce de Dieu. L'heure de la grâce de Dieu. Mais à quel moment? Eh bien, le verset 14, en fait, nous donne peut-être l'indice. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. J'aurais dû peut-être commencer au verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Dans 2 Timothée 1, 9 à 10, il est dit ceci: Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, écoutez, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. En fait, ce texte nous dit que la grâce de Dieu est apparue de manière tangible et visible, palpable, lorsque Jésus-Christ est arrivé. Lorsque Jésus-Christ est né. Lorsque les paroles de vie sont sorties de ses lèvres. Lorsqu'on a vu Jésus guérir les malades, lorsqu'il a guéri les lépreux et les aveugles, lorsqu'il a chassé les démons, lorsqu'il a ressuscité les morts, lorsqu'il a souffert pour le péché des hommes, lorsqu'il a donné sa propre vie pour les brebis, et lorsqu'il est ressuscité 3 jours plus tard, mes amis, ça, c'est la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ. Bien sûr, cette grâce a été prédite du tout début. Dans Ésaïe 53 et le verset 6, 800 ans avant Jésus-Christ, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui, le Messie, l'iniquité ou le péché de nous tous. Donc Dieu a toujours eu un plan. Le Sauveur allait venir un jour et tous les sacrifices de l'Ancien Testament que les gens faisaient pointaient toujours au Messie qui allait venir. Comme aujourd'hui, nous, lorsque nous recevons Christ comme Sauveur et Seigneur, nous croyons au Christ qui est venu. Eux, ils croyaient au Christ qui allait venir. C'est pareil, par la foi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 2 Timothée 1, 9 et 10, il est dit « Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. » Ah, ça c'est incroyable. Ça veut dire que avant même, tenez-vous bien, avant même Genèse 1:1, d'accord, qui dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Avant ça, Dieu avait déjà le plan d'envoyer son Fils Jésus-Christ avant les temps éternels. Ça, on le sait parce que Éphésiens 1 nous dit ceci au verset 3, « En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. » Écoutez mes amis, si des fois vous vous trouvez dans une tourmente, déprimé, vous dites « aïe, 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 j'y comprends plus rien, comment essayer de trouver des solutions à mes problèmes ?» et vous dites que « Dieu, vraiment, est-ce que tu comprends ?» Attends, réfléchis juste un instant. Si il a prévu d'envoyer son Fils Jésus-Christ avant même la fondation du monde, avant les temps éternels, est-ce qu'il comprend ta situation ? Moi je crois qu'il la comprend. C'est pourquoi la théologie est tellement pratique, mes amis. Quand toi, tu ne comprends plus rien et tu te sens tout petit dans ton monde, pense à Dieu, plonge ton regard dans la parole de Dieu et rappelle-toi que Dieu est tellement grand et puissant et éternel. Donc, la grâce de Dieu est devenue tangible et visible avec l'arrivée de Jésus-Christ. Cinq, le but de la grâce de Dieu. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait sortir tellement d'un verset ? On ne l'a même pas encore fini. Regardez, on est encore au verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Le but de la grâce de Dieu, c'est quoi ? Le salut. Le mot « source » n'apparaît pas dans l'original, mais la traduction est parfaitement correcte. C'est tout à fait impliqué dans le texte. La grâce de Dieu est la source de notre salut. Le but de la grâce de Dieu est de nous sauver. Sans l'initiative de Dieu, le salut n'aurait pas été possible. Cette grâce est venue afin de sauver l'homme du mal le plus énorme qui existe, son péché, qui mérite la malédiction de Dieu et la ruine éternelle. Jean 3, 36 est vraiment clair. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est ça le problème de l'homme, mes amis. C'est que sans Christ, il n'y a aucune solution à mon péché. Je suis pécheur. Vous pensez être une exception ? Honnêtement, franchement, vous êtes pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Tous ont péché, nous dit la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est le plus grand mal, le plus grand problème de l'humanité, c'est notre péché. Qui nous coupe de Dieu. Sa colère est sur nous. Comment se débarrasser de ce péché ? Ben, tu peux essayer de faire toutes les bonnes œuvres que tu veux. Tu peux essayer d'être religieux. Vas-y, essaye. Tu n'arriveras jamais à ôter ton péché. C'est impossible. Il n'y a qu'une manière. C'est ce que le verset nous dit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Le salut vient d'un sauveur. Et une fois que Jésus-Christ devient notre sauveur, en lui demandant tout simplement de devenir notre sauveur, Romains 8, 1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est incroyable. J'étais condamné par Dieu pour mon péché. Je crois en Jésus-Christ, il me pardonne. Maintenant, je ne suis plus condamné. Je reçois à la place de sa condamnation la vie éternelle. Et ça, en plus, c'est gratuit. C'est un cadeau que Dieu t'offre. 6. Tenez-vous bien, c'est génial. 6. L'étendue de la grâce de Dieu. Encore le verset 11, regardez. Car la grâce de Dieu, source de salut pour qui ? Pour tous les hommes. À qui est offerte cette grâce ? À tous les hommes, hommes et femmes, vieux et jeunes, riches et pauvres, à tous ceux qui sont coupables devant Dieu de tous les pays du monde. Hendrickson, un commentateur, dit ceci : la grâce de Dieu n'a pas passé sur les vieillards parce qu'ils sont vieux, ni les femmes parce qu'elles sont femmes, ni les jeunes gens parce qu'ils sont impétueux, et ni même les esclaves parce qu'ils sont esclaves. Non. La faveur imméritée de Dieu fut manifestée et accordée à tous, quelle que soit leur situation. Alors ce n'est pas une référence à ce qu'on appelle au salut universel, comme quoi tout le monde va être sauvé. Non, parce que nous devons, pour être sauvés, recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur. Écoutez 1 Timothée, par exemple, 2, qui dit « Cela, verset 3, est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Voyez-vous, Christ a pris sur lui notre péché et a payé la dette ou la rançon. Donc, il faut que cette dette soit mise sur mon compte pour que j'en bénéficie. Il n'y a que Jésus qui a payé cette dette. Donc, je dois personnellement demander à Jésus de payer ma dette pour que ma dette soit payée. Si j'en veux pas, ce n'est pas comme s'il va venir et forcer le paiement de la dette. Il faut que je lui demande. Et moi, ce que j'aime avec ce petit verset, dans le titre de 11, c'est, beaucoup de choses bien sûr, mais il dit « pour tous les hommes ». Le salut est vraiment disponible pour tous les hommes. Ça, c'est très intéressant parce que c'est pourquoi, mes amis, moi, j'ai rencontré Jésus-Christ en Inde. Et il faut le faire quand même. Tant c'est un pays hindou, si je ne me trompe pas. Comment est-ce possible de rencontrer Jésus-Christ en Inde ? Ça veut dire que Jésus-Christ m'avait précédé en Inde. Ça veut dire qu'il était en Inde pour pouvoir me sauver en Inde, par le biais d'un missionnaire. On est d'accord ? On est d'accord ? C'est pour ça que j'étais vraiment encouragé ce matin, ce week-end, de rencontrer Takashi. Lui, il a rencontré Jésus-Christ où ? Au Japon ! Qui veut dire que Jésus-Christ l'a précédé au Japon ? Dites-moi, là, on a un paquet de nationalités, au moins 30 ou 40, d'accord ? Dites-moi, levez la main, si vous avez rencontré Jésus-Christ dans votre pays, levez la main, dans votre pays, levez la main. Mais c'est trop génial ! Ça veut dire que là, je vois les Roumains, je vois les Africains, je vois toutes sortes de personnes, ça veut dire que Christ vous a précédé dans votre pays. Ça prouve que Christ est vraiment partout sur le monde. Ce verset est vrai et concrètement vrai. Sept. L'instruction de la grâce de Dieu. Maintenant, on passe au verset 12. D'accord ? Je recommence au verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Je vais décliner ça très, très simplement, d'accord ? Les versets 12 et 13 nous montrent que la grâce de Dieu qui envahit une vie aura un effet dans cette vie. Regardez, le mot utilisé ici, verset 12, elle nous enseigne. Intéressant. La grâce de Dieu nous enseigne. Ah, moi, ce que j'aime avec ce mot, c'est que c'est un mot imbibé de patience. D'accord ? C'est un mot que vous connaissez aussi, duquel nous avons le mot pédagogue. Celle de l'enseignement d'un enfant dans sa croissance, pas par pas. C'est un enfant qui va à l'école, et il est là, et il va apprendre les trucs pour la première fois. Moi, je me rappelle quand j'étais petit à l'école de Choulet. Moi, je ne suis pas du tout dans les maths, d'accord ? Les maths, ce n'est pas mon truc. Mais un jour, la maîtresse, Madame Torrent, elle s'appelait, nous a appris, je me rappelle comme si c'était hier, je devais avoir quoi, 5-6 ans, je ne sais même pas, elle nous a appris comment faire les additions et les soustractions. Et pour une raison que j'ignore, parce que je suis nul en maths, j'ai compris le truc, quoi. Je savais comment additionner et soustraire. Et nous donner des feuilles remplies de petites formules, comment on appelle ça, des additions et des soustractions. Et là, j'allais, et j'étais là pendant un jour de ma vie, le premier à toujours répondre juste toutes les questions. Et je me rappelle le sentiment de génialité. Je me disais, waouh, mais je comprends. Et puis voilà, j'étais vraiment confiant et je ramenais mes feuilles. Et j'étais tellement content de savoir et avoir compris ces petites formules mathématiques. C'est plus le cas, d'accord ? Mais je trouve intéressant que notre vie, elle est comme ça. On apprend pas par pas. C'est pareil avec la vie chrétienne. On apprend pas par pas. La grâce de Dieu nous apprend pas par pas à avancer et à apprendre ce qu'est cette grâce et comment la vivre. Et en fait, elle nous enseigne trois choses. Ici, la grâce de Dieu dans les versets 12 et 13. Premièrement, elle nous apprend à renoncer à quelque chose. Deuxièmement, à adopter quelque chose. Et troisièmement, à regarder vers quelque chose. D'accord ? Voilà, très bien, on peut les laisser comme ça. Regardez premièrement, on ne va pas prendre longtemps, mais regardez verset 12. Elle nous enseigne premièrement à renoncer à quoi ? À l'impiété et aux convoitises mondaines. Renoncer veut dire rejeter, nier, ne plus avoir goût d'une chose. Donc, la grâce de Dieu qui me donne le salut, je suis maintenant pardonné de mon péché par le sang de Christ. Maintenant, tout d'un coup, tout change dans mon cœur. Il y a des choses que je ne voulais pas avant que je veux maintenant, et des choses que je voulais avant que je ne veux plus maintenant. Et ce que je ne veux plus maintenant, c'est les choses auxquelles je veux maintenant renoncer, parce que la grâce m'apprend à renoncer à ces choses. Elle m'apprend à renoncer, premièrement, à l'impiété. À l'impiété, tout simplement un manque de révérence envers Dieu, c'est ça l'impiété. Avant je m'en fichais de Dieu, ce qui était mon cas, et tout d'un coup je rencontre Christ et là je me dis, mais Dieu c'est trop génial, c'est énorme, c'est grand, et je commence à aimer Dieu, et je commence à vouloir connaître Dieu par la parole de Dieu. Et bien sûr, l'impiété, puisque je ne connais pas Dieu, ça va être reflété dans ma vie, d'impiété, je vais faire des choses qui ne reflètent pas Dieu. Par exemple, ce qu'on appelle les œuvres de la chair dans Galates 5, 19 sont évidentes, les œuvres de la chair, la débauche sexuelle, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça c'était peut-être moi et vous avant. Tout d'un coup là, je viens à Christ, je connais la grâce de Dieu, je ne veux plus ça, je renonce à ça. Et deuxièmement, aux convoitises mondaines. C'est quoi les convoitises mondaines ? 1 Jean 2, 16 nous le dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Verset 16 de 1 Jean 2. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et ses convoitises. Voilà, la convoitise de la chair, c'est tout ce que ma chair veut. Hein, c'est les pulsions, bien sûr, mauvaises, parce que là, ils appellent des convoitises de la chair, donc c'est avant Christ. C'est les désirs, pratiques sexuelles perverties. C'est l'alcool excessif. C'est les drogues, c'est les excès de table, c'est tout ce que ma chair veut, mais qui sont totalement déréglés et pas conformes à la parole de Dieu. Deuxièmement, la convoitise des yeux, ben c'est le culte du plus avoir. C'est la personne qui se dit, voilà, j'ai peut-être beaucoup, mais je veux toujours plus. Et je ne suis jamais satisfait sans avoir plus. Et l'orgueil de la vie, eh bien, c'est toujours sans cesse de vouloir être le meilleur et de vouloir que tout le monde sache que je suis le meilleur. Et je suis même prêt à écraser l'autre pour parvenir à mes fins. Donc je renonce à ces choses, mais deux, j'adopte d'autres choses. Regardez, j'adopte d'autres choses. Verset 12, il dit, il nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La sagesse, un enfant sage, c'est quoi? Un enfant obéissant. À tout le coup, la parole de Dieu devient mon amour. J'aime la parole de Dieu et j'ai envie de l'obéir. J'en vais de l'obéir du cœur. Je vais être un enfant sage vis-à-vis de mon Père céleste. Et la justice, ah, ça c'est intéressant. J'adopte la justice. Je sais faire la différence entre ce qui est juste et pas juste, droit et tordu. Je suis honnête en fait. Dans vos affaires, au travail, avec votre voisin, avec les gens avec qui vous avez des affaires, vous êtes honnête. Pas de tricherie, pas de mensonge. Non! Je suis honnête. Un chrétien, il est honnête. Et la piété, ben, on a vu tout à l'heure, c'est ce qui plaît à Dieu. Je veux dorénavant plaire à Dieu. Et une vie chrétienne, c'est tout simple. J'aime Dieu et j'aime ce que Dieu aime. C'est pas compliqué, la piété. J'aime Dieu et j'aime ce que Dieu aime. Donc, on renonce à certaines choses. On adopte certaines choses. N'oublions pas. C'est de la pédagogie, c'est pas par pas, c'est pas en un coup. Hein, c'est progressif. Il y a le désir, mais c'est avec le temps, avec la maturité, ça devient de plus en plus facile ces choses. Et troisièmement, regardez le verset 13, on regarde vers quelque chose en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ah, c'est intéressant. Le chrétien est touché par la grâce de Dieu. Il renonce à l'impiété, aux convoitises mondaines. Il maintenant adopte la sagesse, la justice, la piété. Et son regard se tourne de plus en plus vers quoi? Vers le retour de Jésus-Christ. C'est intéressant quand même. Parce que nous savons que Christ est venu. Regardez acte 1. Acte 1, 11. Très intéressant. Jésus est ressuscité, il est sur terre pendant 40 jours, et là, c'est son dernier moment sur terre, et il décolle littéralement, physiquement, et il monte au ciel. D'accord? Verset 9 de acte 1. Après avoir dit ces choses, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, vraiment, c'est comme une petite fusée, on pourrait dire, mais plus lentement, un hélicoptère, on pourrait dire. Jésus a littéralement décollé de la terre, pendant que tout le monde regardait, et il montait, les nuages sont venus, il a disparu. Physiquement, visuellement, tangiblement. Regardez verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, ce sont les anges. Et ils leur dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il dit, oui, il est parti, mais un jour, il va revenir de la même manière. Et Zacharie nous dit que lorsqu'il descendra et touchera la terre sur le mont des Oliviers, le mont des Oliviers va se fendre en deux, et c'est là où Jésus va atterrir. C'est incroyable. Un des trucs les plus géniaux, c'est quand on va en Israël, on y va le mois prochain, c'est d'être sur le mont des Oliviers et tu dis, waouh, c'est exactement quelque part ici où ses pieds un jour vont retoucher. C'est un petit peu la Bible en 3D là. C'est excellent. Vraiment, c'est excellent. Donc, le chrétien a son regard vers le retour de Jésus, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire. Ça c'est intéressant, cette petite note, regardez, un énoncé spécifique de la divinité de Jésus, parce qu'il dit « de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ ». Ce texte, grammaticalement, appelle Jésus-Christ notre grand Dieu et Sauveur. C'est beau, non? Donc, L'instruction de la grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à quelque chose, à adopter quelque chose et à regarder vers quelque chose. 8. Le prix de la grâce de Dieu, très simple, on l'a déjà dit. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Le prix, mes amis, c'est le prix du sang du Fils de Dieu. Acte 20 et le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sous lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je suis chrétien aujourd'hui, mes amis, parce que Jésus a payé le prix fort. Il a donné sa vie pour moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça a tout à voir avec lui. C'est pour ça que la grâce de Dieu est un don gratuit. Ça, c'est le prix de la grâce. 9. Les privilèges de la grâce, verset 14. Il s'est donné lui-même pour, je dirais, deux privilèges, afin de nous racheter de toute iniquité. Le premier privilège, c'est que mes amis, et là, je vous le déclare aussi clairement que je peux, le pardon des péchés est possible. Le pardon des péchés est possible. Demandez à un musulman si dans sa religion, il y a le pardon des péchés. Moi, j'ai demandé récemment à quelqu'un. Il dit non. Non, à la fin des temps, on verra bien. Mais le chrétien, il ne répond pas ça. Le chrétien, il dit, bien sûr que je suis pardonné. Clair et net. Pardonné. Pourquoi ? Parce que le sang de Christ nous a rachetés, verset 14, de toute iniquité. Non, John, tout ton péché pardonné, oui, tout mon péché. Passé, présent, futur. Tout. Vous dites c'est trop beau. Non, pas trop beau, c'est beau. C'est génial. C'est la vérité. C'est l'évangile. Ça, mes amis, c'est la grâce de Dieu. Deuxième privilège, on devient un peuple, verset 14, et de se faire un peuple qui lui appartienne. Vous rappelez ce petit verset ? Dans Apocalypse 5, c'est une vision céleste. Les gens dans le ciel chantent, et il est dit au verset 9, et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Moi j'aime bien l'EIG, j'aime bien notre église, parce que quand je lis ce verset, je me dis « ça c'est nous. » 30 à 40 nationalités, on dit tous « Amen ». Amen, on peut dire, parce que vraiment, c'est vrai, on a tous, si vous connaissez Christ, été rachetés, quel que soit notre pays d'origine et notre langue. Donc ça, c'est déjà des immenses privilèges. Pardon des péchés, et on est un nouveau peuple, appartenance en tant que peuple de Dieu. Et dixième, dernier point, les effets de la grâce de Dieu. Regardez, à la fin du verset 14, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On est pur, déclaré pur. Oui, mais je ne me sens pas très pur. Tu es déclaré pur par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce de Dieu, non ? Et regardez. Et on devient zélé pour de bonnes œuvres. C'est intéressant. Zélé, bouillonnant pour de bonnes œuvres. Bouillonnant pour faire le bien. Tite 3:8, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ben oui, parce que si la grâce de Dieu m'a touché, je bouillonne d'amour pour le Seigneur, ben je bouillonne de désir de le servir par mes bonnes œuvres et par les dons qu'il m'a donnés. Donc, il ne suffit pas de dire, ouais, je suis chrétien, j'ai été touché par la grâce de Dieu. Eh bien, si c'est vraiment vrai, ça va se voir. Ça va vraiment se voir. Alors je conclue. C'est la rentrée. Notre travail reprend. J'ai perdu une feuille. Le travail reprend. Et les activités de l'Église reprennent. Alors j'espère que vous avez compris le but de mon message. Ce matin, je ne demande pas ceci. Comment vas-tu servir le Seigneur dans ton Église locale? Je n'ai pas posé cette question. Je répète, je ne pose pas la question suivante. D'accord? Je ne la pose pas là. Comment vas-tu servir le Seigneur dans ton Église locale? Non, voici la question que je vais vous poser. Pourquoi vas-tu servir le Seigneur dans ton Église locale? Je répète. Voici la question que je pose. Pourquoi vas-tu servir le Seigneur dans ton Église locale? Allez, je vous donne la réponse. D'accord? Voici la réponse que vous devriez, je pense, donner à cette question. Ah ben, la grâce de Dieu m'a touché et j'ai été sauvé par Jésus-Christ. Il m'a pardonné mon péché à cause de son sacrifice. J'ai un zèle bouillonnant dans mon cœur pour l'aimer et pour le servir. Et donc j'aimerais le servir joyeusement dans mon église locale avec les dons qu'il m'a donnés dans tel ou tel ministère. Alors moi j'espère vraiment, mes amis, que chacun de nous, on va vraiment rentrer chez soi et réfléchir à ça et se dire, voilà, ben Seigneur, quelle grâce tu m'as faite. Que veux-tu de moi cette année? Regarde mon cœur. Amen. Peut-être on va tous se lever, on va prier. On va se lever, levons-nous. Peut-être vous êtes ici ce matin et vous ne connaissez pas Christ. J'aimerais vraiment prier pour vous et vous demander de considérer ce que Jésus a fait pour vous. Son sacrifice. Il t'offre sa grâce. Accepte-la, si tu ne le connais pas encore. Et si tu es chrétien ce matin et avec la rentrée devant nous, moi je te demande vraiment de considérer ta vie en Christ aujourd'hui. Et d'un cœur reconnaissant et joyeux, de simplement demander au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu de moi? Comment est-ce que je peux te servir? Et cette église locale dans laquelle tu m'as placé. » Seigneur, merci, merci pour cette grâce abondante, imméritée. À toi la gloire et nous te remercions au nom de Jésus. Amen.